Voilà, nous allons donc partager la parole de Dieu ensemble. 2 Pierre chapitre 3, nous allons lire le chapitre en entier, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tout, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes, ignorantes et mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Cette expression de paraître avec lui un jour dans la gloire revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Lorsque nous devenons des chrétiens, de véritables croyants, ce que la Bible appelle des nés de nouveau, eh bien nous devenons co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Romains, ne le cherchez pas, Romains 8, 14, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Christ, de Dieu, et co-héritiers avec Christ. » Ces deux lectures, entre autres, nous montrent combien de fois l'Écriture nous encourage à nous efforcer, à persévérer, tout ça avec joie, à souffrir même à souffrir. C'est écrit dans les... C'est écrit, où c'est qu'on a lu ça, qu'il faut souffrir? Je l'ai lu ou je ne l'ai pas lu encore? Non. Il nous est demandé de souffrir. C'est dans Romains, on le lit. Il faut le lire. Parce que quand même, il est important ce verset, Romains 8, 14. Il explique qu'un enfant, un chrétien, pour beaucoup de gens, quand je fais moi mes petits sondages, mes petits questionnaires auprès de certains chrétiens qui viennent dans l'église, je suis estomaqué de voir que beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ne connaissent rien de leur position en Christ. Et c'est dommage. Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a dans toutes les épîtres cet enseignement qui revient de la gloire de Dieu à venir, mais il ne faut pas nous relâcher, il faut persévérer, il faut même souffrir, parce que quand on est chrétien et que l'on affiche sa foi, il y a un combat spirituel dans le monde, dans la famille, au travail. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès que vous prenez position, écoute, non, moi je ne mentirai pas, non, moi je ne me moque pas, non, moi je ne critique pas, eh bien les gens, ça ne leur plaît pas. Et il y a une certaine souffrance sous plusieurs formes, c'est un combat spirituel, il ne faut pas lutter contre la chair et le sang, mais ça existe vraiment. Donc, toute l'Écriture nous encourage à persévérer, à souffrir, à nous appliquer, on l'a lu dans Pierre, de s'appliquer pour aller jusque dans cette demeure éternelle. Nous avons parlé à plusieurs reprises de l'enfer. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce matin, je vais vous parler un petit peu du ciel, mais de la même manière que beaucoup d'églises sont démobilisées dans le combat spirituel parce qu'il n'y a plus cette prise de conscience de l'enfer. C'est pour ça qu'on arrête les réunions d'évangélisation, qu'il n'y a plus de réunions de prière. C'est pour cette seule raison. En tous les cas, c'est ce que Dieu m'a dit quand je l'ai questionné à ce sujet. C'est parce qu'on n'a plus la notion du fait que les gens ils vont aller à l'enfer pour l'éternité. Mais il y a une chose aussi qui est valable pour les chrétiens, c'est que malgré le fait que lorsque Jésus, quand il est remonté au ciel et qu'il a dit, qu'il était parti pour nous préparer une place et qu'il reviendra un jour pour nous, qu'on le rejoigne, je me pose la question, nous les chrétiens, est-ce que vraiment nous sommes heureux d'entrevoir le ciel? Est-ce que vous aimez, quand vous vous retrouvez avec des chrétiens, parler des choses du ciel? Est-ce que vous êtes plus préoccupé par, je ne sais pas, les derniers gadgets qui sortent en technologie, ou est-ce que ce qui est important pour vous, ce sont les choses du ciel? Et je crois que beaucoup de chrétiens ont perdu la joie, ont perdu cette ferveur, ont perdu bien cet enthousiasme pour la seule unique raison qu'ils ne pensent plus aux choses du ciel. C'est vrai que les choses de la terre ont leur importance et qu'il faut être sérieux. Par contre, là, c'est l'inverse. Ils sont tellement accaparés par le spirituel que la famille, le travail, je ne travaille pas, ce n'est pas grave, de toute façon, un jour. Il y en a, ils ont compris, très bien compris. Hein. Mais ce n'est pas un bon témoignage. Un chrétien, il prend soin de son travail, il prend soin de sa femme, de ses enfants, il prend soin de sa place dans la société. Jésus l'a bien dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Et il rajoute, ils ne sont pas du monde. Vous voyez, cet équilibre, nous sommes sur la terre, on va le voir tout à l'heure, mais en vérité, nous sommes étrangers sur la terre. Là, Jésus l'a répondu à ces sadducéens et à ces pharisiens qui se moquaient de lui, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà, en une parole, on a exactement l'équilibre pour savoir comment nous comporter. Mais c'est quand même triste, vous l'avouerez, de voir combien de chrétiens sont beaucoup plus préoccupés par les choses de la terre que par les choses spirituelles. Et vous savez que c'est vrai. Et c'est certainement parce qu'on oublie, et qu'il y a bien quelqu'un qui cherche bien à ce que nous oublions cette dimension, cette gloire qui les attend. Vous avez vu, on a pris trois textes. Les textes nous indiquent de notre comportement par rapport à la gloire à venir. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'éternité dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous y pensez? L'éternité dans la présence de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous y pensez de temps en temps? Eh oui, ça va durer longtemps cette affaire. Et il vaut mieux vraiment l'anticiper comme il faut. Moi je suis peiné, je vous le dis. Quand j'aime parler de tout, je pense qu'un chrétien, il s'intéresse à beaucoup de choses. C'est évident. Mais lorsque jamais nous ne nous préoccupons de parler des choses du ciel. Moi, je trouve que c'est quand même dommage. Il suffirait pour ces chrétiens-là, peut-être plusieurs parmi nous sont concernés, c'est certainement le cas, qu'ils consacrent une demi-heure par jour, une demi-heure, à se placer sous le regard du Seigneur, une demi-heure, pour réaliser que dans le ciel, nous avons un Seigneur qui est couronné de gloire et d'honneur. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Dans le ciel, en ce moment, Jésus règne sur son trône. Il n'est pas couronné d'épines et couvert de sang. Sur le trône, Jésus est couvert de gloire. Et il règne, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, il ne règne pas sur le péché, mais après il règne sur tout. Et il veut régner sur notre vie. Nous devons, le matin, lorsque nous levons, le glorifier et dire, Seigneur, un jour qui me rapproche de du grand jour, parce que ça sera quand même un grand jour, un jour qui me rapproche de ce moment où je vais être glorifié. Nous le voyons, dit l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, couronné de gloire et d'honneur. Vous savez, mes frères et sœurs, si on donnait à tous les jours au Seigneur une demi-heure pour le contempler, l'adorer, le bénir, pas que le prier, mais vraiment l'adorer. Comme une sœur l'a dit dans la prière. Et elle a raison. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Là, le souffle que vous avez là, vous respirez ? Est-ce que vous êtes... Oui, bon. Si vous respirez, c'est Dieu qui vous donne le souffle. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est écrit. Vos habits, votre maison, tout ce que vous avez. Vous pouvez dire, moi j'ai bossé dur. C'est Dieu qui vous l'a donné. La seule et unique chose que vous pouvez lui donner qui ne lui appartient pas, c'est votre adoration. C'est la seule chose que vous pouvez lui offrir vraiment de tout votre cœur. Mais si nous réalisions à quel point, à chaque seconde qui passe, nous frôlons de rentrer dans l'éternité, oui ou non ? On ne se rend pas compte, mais à chaque seconde, nous pouvons partir dans l'éternité. Si nous réalisions davantage cela, je pense qu'on s'occuperait un petit peu moins des choses de la terre. Et cela nous donnerait peut-être de mieux vivre nos journées dans le repos et dans la paix. La chose la plus importante, vous le savez, pour un chrétien, c'est de savoir si oui ou non son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la chose la plus importante. Je ne sais pas si vous êtes préoccupé par les congés de juillet ou si vous allez les poser en août, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous êtes préoccupé par le prochain écran plat ou la prochaine voiture que vous allez acheter. Écoutez, mais est-ce que vous êtes préoccupé par votre position spirituelle ? Est-ce que vous pouvez tous dire ce matin, est-ce que nous pouvons tous dire, oui, mon nom est inscrit dans le livre de vie parce que je marche avec Jésus-Christ dans la sainteté et dans la pureté. Vous avez vu quand il y a les résultats du bac, quand ils montrent aux informations les résultats du bac. Vous avez vu les étudiants ? Comment ils font quand on ouvre les grilles pour qu'ils aillent voir leurs résultats sur les panneaux ? Comment ils font ? Mais vous avez vu, vous les avez vus les jeunes ? Ouais, j'ai reçu ! Il y en a qui repartent comme ça. C'est pas vrai ? Ils sont là, ouais, je l'ai. On a l'impression qu'ils ont décroché le loto. J'espère que personne n'y joue quand même. Ben. Ouais, je suis sérieux, parce que ça c'est pas bon signe, croyez-moi, c'est pas bon signe. Jésus l'a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je voudrais ce matin que nous soyons tous conscients de l'éternité qui peut à chaque seconde se présenter pour chacun de nous, de la gloire à venir. Et quand Jésus dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous pensez à ce jour, moi j'y pense très souvent, où je vais passer devant Dieu pour rendre des comptes ? Quelle grâce d'avoir Jésus pour avocat, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. À celui qui vaincra, c'est un encouragement à la victoire, mais c'est aussi un avertissement, que vous le vouliez ou non, et bien sûr c'est une promesse, il doit y avoir des vainqueurs. Il nous est demandé, on l'a vu, voyez, de réfléchir, de travailler, de prendre en considération ces choses. On n'est pas là ce matin pour tranquilliser notre conscience en nous laissant croire que nous sommes de bons chrétiens parce que nous sommes dans un lieu de culte. La Bible nous demande de faire des efforts, on l'a lu, pour obtenir les 5 couronnes que Jésus a promises de la part du Seigneur. Il y en a 5 couronnes. La couronne de vie, je vous donne les références, Apocalypse 2:10. Jacques 1:12 aussi. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9. La couronne de joie, 1 Thessaloniciens chapitre 2. La couronne de gloire, 1 Pierre chapitre 5. La couronne de justice. Par exemple, on peut lire une de ces couronnes dans Jacques. Dans Jacques au chapitre 1er, voyez dans quel contexte Dieu nous dit qu'on aura une couronne de vie. Alors on ne sait pas ce que sont exactement ces couronnes. Écoutez, de toute façon, ce n'est pas tellement grave. Parce que il est dit, comme on l'a chanté tout à l'heure, que les couronnes, on les jettera au pied du Seigneur. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Dieu nous donnera-t-il des couronnes et qu'on va les jeter à ses pieds ? Hein, à quoi ça sert? Parce qu'il y a des gens, ils sont forts, croyez-moi, pour poser ce genre de questions. Regardez avec moi dans Jacques, chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Je profite pour dire que la tentation, ce n'est pas un péché. Si vous saviez la quantité de chrétiens qui souffrent à cause de la tentation, considérant que c'est un péché, la tentation, dans ce texte, c'est une épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'on s'est converti, aurait pu faire en sorte que nous ne soyons plus tentés. Oui ou non? Il y a des gens qui disent « Ah, oh, vivement que je prenne le baptême !» On me l'a dit il y a 8 jours. « Quand je prendrai le baptême, je suis sûr que j'aurai plus de tentations. » Alors, je dis, écoutez-moi. J'ai dit « Vous risquez d'en avoir peut-être beaucoup plus qu'avant. » Vous croyez? Eh ouais. Et c'est vrai. La tentation n'est pas un péché. Mettez-vous bien ça dans votre cœur. La tentation, c'est une épreuve. Dieu permet, ça nous éprouve, ça teste notre patience, ça nous permet peut-être d'entretenir le bon combat. Mes frères et sœurs, c'est la convoitise qui est un péché. La convoitise est un péché. C'est-à-dire que ce dont j'ai été tenté, je vais m'arranger pour le faire. Là, on est dans la convoitise. Mais Jésus a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Débarrassez-vous de ce piège du diable. Croyez-moi, c'est un piège. Voilà, des tentations, vous en aurez 50, 100, 200, 1000 par jour. Et bien, chaque fois, vous mettez un terme à cela, en mettant tout ça au pied du Seigneur. En parlant du ciel, les Écritures mentionnent 3 cieux. Le premier, constitué de notre atmosphère, de l'air que nous respirons. Dans Actes 14, 17, il est dit, il nous dispense la pluie du ciel. Donc, c'est le ciel, l'atmosphère terrestre. Le second ciel, c'est le domaine planétaire dans les lieux célestes. Lorsqu'il est dit que nous avons à lutter contre les esprits mauvais, les principautés, les dominations, dans les lieux célestes, c'est dans ce deuxième ciel, certainement, que se situe ce combat spirituel dont je vous ai parlé il y a, je crois, une semaine. Le troisième ciel, invisible, qualifié des cieux par plusieurs personnes de la Bible, désigne bien sûr la demeure de Dieu, de ses anges, etc. Et là où il y a ses enfants dans le paradis. Lisez avec moi un texte dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, l'autre jour, j'ai entendu un chrétien, certainement il n'a pas fait gaffe, il a prié, il a dit « Seigneur, merci pour le septième ciel ». J'ai dit « Tiens, il y en a des nouveaux ». Eh ouais, on ne sait pas tout. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. On en apprend des choses, moi je vous le dis. On en apprend. Non, je pense qu'il a voulu dire le troisième ciel. 2 Corinthiens, chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui raconte une expérience qu'il a vécue il y a 14 ans en arrière. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. C'est pour vous dire combien quand on part vraiment avec un corps. Vous voyez, puisqu'il ne sait pas lui-même. Fut enlevé dans le paradis, donc c'est le troisième ciel, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà donc le troisième ciel. C'est quelque chose dans l'invisible, c'est un monde qu'on pourrait appeler de parallèle. Mais déjà, écoutez-moi bien les frères et les sœurs, parce qu'en ce moment, il circule de la littérature ou sur le ciel ou sur l'enfer, et il est bon que je vous dise 2 ou 3 choses. Ce qui existe dans le paradis. Ne parlons pas des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Il y a quelques chapitres qui en parlent, mais c'est beaucoup d'images. C'est hallucinant combien il n'est pas possible à un homme de pouvoir décrire ce qu'il y a dans le paradis. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le diable, avec ses ruses, essaie de détourner les gens de la parole de Dieu. C'est clair. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut, on ne peut pas exprimer ces choses. Vous comprenez, mes frères et sœurs, l'homme, l'intelligence humaine, l'analyse et l'imagination de l'homme, même l'imagination soit-elle développée au maximum, ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans le ciel. C'est trop beau. Merci Seigneur. Autant qu'on ait la surprise lorsqu'on arrivera là-haut. Le langage humain est incapable. C'est ce que Paul est en train de dire. Si vous lisez Ézéchiel, je suis en train de lire le prophète Ézéchiel, mais regardez quand Ézéchiel, pourtant lui aussi, il a été ravi en extase, et dans ses visions, il dit « j'ai vu comme », toujours, « comme », c'est une image. Mais le langage humain, on le voit dans toute la Bible, ne peut pas expliquer la félicité éternelle. Dieu l'a voulu, c'est super bien, parce qu'au moins on aura tout l'effet de la surprise lorsqu'on arrivera dans le ciel. Alors c'est vrai que dans l'Apocalypse, on va le lire, il me semble que tout le monde doit le savoir, mais le dernier avertissement de l'Apocalypse, quand même, est-ce que c'est important, la dernière chose que Jésus nous avertisse? Eh oui, c'est important. Regardez, dans l'Apocalypse donc, l'avant-dernier verset, je pense, c'est le dernier avertissement. Regardez, Apocalypse 22, 18. C'est sérieux, vous savez, c'est Jésus qui parle. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Je ne sais pas si vous... Alors, on peut l'analyser ce verset, je ne voudrais pas aller trop loin, mais il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il y aura la capitale qui s'appellera la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que ces gens seront perdus? J'en sais rien. Mais en tous les cas, ceux qui se seront permis de transgresser les Écritures ne pourront pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est clair. C'est sérieux. C'est très sérieux. Mais il n'y a pas que ça. Parce que l'autre fois, on m'a fait une remarque par rapport à des choses qu'on pouvait ajouter. Mais regardez quand même dans 2 Jean, dans la deuxième épître de Jean. Regardez, s'il vous plaît. Bon, je ne veux pas critiquer, mais c'est pour vous faire comprendre quand même, je pense aux témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, je le dis, ce n'est pas mon habitude de dire ces choses, mais je le dis quand même, font exactement ce que nous allons lire. C'est pour ça que c'est délicat par rapport à leur doctrine, croyez-moi. Regardez, deuxième épître de Jean, chapitre 9, verset 9, chapitre 1er sûrement. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut pratique à ses mauvaises œuvres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne retranche rien à la parole que certains ne se permettent pas d'y ajouter à la parole. Et vous avez vu avec moi qu'il faut ni rajouter ni retrancher. Si nous voulons plaire à Dieu, ne nous permettons pas, parce que c'est vrai, ça fait révélation. Moi, j'ai vu même quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je suis en train de découvrir les choses qui n'ont pas été écrites. Vous savez, quand il est dit dans l'évangile de Jean qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites, mais le chrétien, il disait ça. Moi, je suis en train de découvrir, Dieu me révèle les choses qui n'ont pas été écrites dans le livre. J'ai dit, écoute-moi, je ne veux pas que Dieu me les révèle. Parce qu'il ne faut rien rajouter, rien retrancher. Mes frères et sœurs, veillons à cela. Veillez à ce que vous lisez. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ne le recevez pas. Ne le recevez pas. Vous voyez, quelqu'un disait dernièrement, moi je suis sûr que les morts dans le ciel, ils nous voient. Mais moi, je ne l'ai pas vu dans la Bible. Et moi je pense qu'il ne serait pas tellement au paradis, vous voyez, s'ils nous voyaient. Je ne sais pas. Si c'est ça le paradis, eh bien bonjour. Le paradis, c'est quand même mieux que ça. Imaginez un endroit, un pays, où nul ne meurt jamais. C'est chouette, non? Pas comme celui-ci. Ouais. Où tous les habitants sont toujours jeunes. C'est bien? Ouais. Heureux, bonne santé, pas de maladie, pas de souffrance, pas de deuil, pas de larmes, rien. Il n'y a aucune raison de pleurer dans le ciel, croyez-moi. Est-ce que ça vous intéresse? Hein? Alors on lit un peu, hein? On peut relire comme 1 Corinthiens 15. C'est, en préparant cette étude, je me suis rendu compte une fois de plus, les milliers de versets qui nous parlent de notre éternité. C'est extraordinaire. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, c'est des questions qu'on nous pose de temps en temps. Quelqu'un m'a demandé dernièrement, mais pour quelqu'un qui est infirme, comment ça va se passer pour lui? Bon, mais ça, c'est une bonne question. Eh bien, on va le lire. 1 Corinthiens, ça, c'est des questions intéressantes, qui parlent sur la résurrection des morts. Il faudrait lire tout le chapitre, mais on va lire que le texte qui nous intéresse, 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. N'oubliez pas, mes frères, qu'il n'y a pas que l'immortalité de l'âme. il y aura la résurrection du corps. Ça, c'est un prodige que Dieu va faire. Le corps ressuscitera. Hein. Il faut bien le comprendre, ça. Alors, le corps, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de formes. Il est semé corps naturel, il ressuscite, corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Maintenant, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 à 8, il nous est parlé des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Combien je vous encourage à méditer, c'est tous ces chapitres qui nous parlent de notre éternité. Il faut que nous nous y intéressons, hein, à ces choses. Au moins, on ne peut pas tout savoir, mais le peu qu'on peut savoir, moi je trouve que c'est encourageant de le connaître. Apocalypse 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Son Dieu lui-même sera avec eux. » Voyez ce à quoi vous soupirez depuis votre conversion, ça va arriver. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses ont disparu. Amen. Je dis Amen. Moi, je sais que c'est bien de dire Amen là. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Car ses paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais... pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Voilà, et il faudrait lire, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais vous avez vu comment Dieu met en opposition, d'un côté, au chapitre précédent, chapitre 20, l'enfer et les temps de feu pour le diable, pour ses anges et pour tous ceux qui ne se convertiront pas, et en même temps, la gloire à venir. Mes frères et sœurs, bientôt, nous allons partir. Vous le savez ? Des fois, quand quelqu'un meurt, on dit « Tiens, il est parti ». Mais on devrait dire « Il est arrivé ». Vous ne croyez pas ? Hein ? Je le dis pour le dire, comme ça. La Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Alors, attendez. La dimension de la ville. Pour vous donner une idée, quand même, moi, je trouve que Dieu, il est grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, verset 15 de ce chapitre 21. Celui qui me parlait avait pour roseau, mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. 12 000 stades. Vous savez combien ça fait ? Dans tous les livres que j'ai lus de théologie, c'est entre 2000 et 2400 kilomètres. Une ville de 2000 kilomètres. Si on part de Toulouse, pour aller à 2000 kilomètres, il faut aller où ? Comment ? Presque à Ouagadougou. Imaginez une ville de 2000 kilomètres, et de Ouagadougou, on remonte au nord, enfin, je ne sais pas où on est, on va en Russie, enfin, 2000 kilomètres carrés. On peut faire des appartements, moi je vous le dis, dans une ville comme ça. On peut en faire quelques millions d'appartements. Des millions d'appartements. Plus que ça. Si quelqu'un peut calculer combien de... Non, plus. Plus, c'est sûr que ça fait... Calculez-le. 2000 kilomètres carrés de hauteur, ça fait des étages. Vous voyez, ça fait une tour. Ça vous donne une idée certainement de la taille de la nouvelle Terre. Moi, je suis sûr que la nouvelle Terre, elle va être... La Terre à côté, ça doit être une petite, petite boule. J'en suis certain. Voilà. Enfin, tout ça... pour nous parler de la gloire divine qui rayonne de cette éternité. Mes frères et sœurs, un jour, il n'y aura plus besoin de vivre par la foi. On le verra. Nous serons semblables à Jésus. Parfois, les gens me disent, est-ce qu'on aura une femme dans le ciel ? Ah non, mais pourquoi vous riez ? Peut-être que les femmes se sont posées la question. Est-ce qu'on aura un mari dans le ciel ? Plus d'épreuves. Plus d'épreuves. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Écoutez, on ne peut pas comprendre. Ne dites pas, oh, il n'y aura pas de femme, ce sera triste. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Regardez dans 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. On ne peut pas comprendre. N'essayez même pas de vous imaginer l'état dans lequel nous serons et l'état de ce qu'on va lire maintenant. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas savoir, personne sur la terre ne peut savoir puisque ça n'a pas été manifesté. C'est ça là, calé à la parole de Dieu. Et toutes ces révélations, écoutez-moi, moi ces révélations de dans l'au-delà, du paradis ou de l'enfer, moi j'émets d'énormes réserves. Ça n'a pas été manifesté, mais regardez, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mes frères et sœurs, quand vous serez au ciel, vous serez exactement comme Jésus. Il y en a une qui a dit Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous serons exactement comme Jésus. Et quand dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus se présente comme l'étoile du matin, quand vous savez que l'étoile du matin annonce le soleil, l'étoile du matin, la venue de Jésus-Christ, parce que 2000 ans, on l'a lu tout à l'heure, c'est 2 jours, l'étoile du matin annonce la gloire de son royaume éternel. Dans ce royaume, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous imaginer. Nous serons comme Jésus. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous saurez tout faire dans le ciel. On ne peut pas s'imaginer. On connaîtra tout. On saura tout. Il n'y aura pas besoin de toutes ces vicissitudes de la terre. On sera dans un état de perfection au niveau de l'unité entre nous. La Bible en parle. Dans Jean 17, il le dit qu'on sera unis. Qu'est-ce qu'il nous parle? De l'amour. Ça sera l'amour parfait. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Hein? Il n'y aura pas de jalousie dans le ciel. Il n'y aura rien. On sera parfait. C'est écrit. Il y aura la gloire, la lumière éternelle, l'adoration constante, la louange continuelle. J'ai les textes là. La communion parfaite, etc. Quel programme, mes frères et sœurs. Quel programme. C'est pour ça qu'il faut quand même, mes frères et sœurs, je m'adresse vraiment aux chrétiens qui ont tendance à être charnels. Parce qu'il y en a, hélas. Et nous le sommes tous parfois. Dans Hébreux, chapitre 11, je vous le lis. Il est dit, versets 10, 13 à 14, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et que comme Abraham, nous attendons la cité au fondement inébranlable dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Nous sommes étrangers sur la terre. Hier soir, j'ai téléphoné à une dame qui nous a beaucoup aidés lorsqu'on était en Polynésie. Cette dame est très riche et elle vit dans une demeure de pauvres. Et chaque fois que des chrétiens apprennent ce qu'elle est et qu'elle vit dans ces conditions, elle leur explique, mais ma maison n'est pas ici. Ma maison, elle est au ciel. Cette femme, elle l'a fait par conviction. Elle a touché, quand elle était jeune, suite à son divorce, une très très grosse somme d'argent. Et cette femme, elle dit, moi mon argent, je veux l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Cette femme, elle a fait un bien fou pour le royaume de Dieu. C'est incalculable. Mais, bien sûr, elle fait ça par conviction. Chacun doit faire les choses par conviction. Nous en reparlerons à l'Assemblée Générale de cette importance d'avoir des projets, d'avoir un avenir, même si bientôt on va de là-haut, que le temps qu'il nous reste, on puisse faire les œuvres de Dieu. C'est important pour que l'Église ait une vision. Mais mes frères et sœurs, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors béni soit Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais notre corps là, que nous entretenons, il sera détruit. Et nous avons au ciel une maison éternel que Dieu nous a préparé. C'est important, mes frères et sœurs, que nous pensions à ces choses. Ça vous aidera à mieux vivre chacune de vos journées, de ne pas être tout le temps accablé. Le travail, c'est vrai que le travail, il faut y aller. Mais franchement, pendant le travail, on peut y aller dans un bon état d'esprit. Aller au travail dans la grâce de Dieu. La mort est obligatoire. J'aimerais vous rappeler que la mort est une bénédiction. La mort, c'est le passage obligé pour aller dans l'éternité. La mort, c'est une bénédiction. Beaucoup de chrétiens entrevoient la mort comme une malédiction. Je vous dis que la vie, la mort, le présent, tout était une bénédiction. Et heureusement qu'il y a la mort. Regardez quand même avec moi, parce que c'est une question que les chrétiens ne comprennent pas. bien souvent dans Genèse au chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Et il y avait un arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a servi de test à l'obéissance, parce que la liberté fait qu'on doit choisir toujours entre le bien et le mal. On choisit aujourd'hui entre la grâce et ne pas la choisir, la grâce. C'est ça le salut. Adam et Ève, ils avaient un test, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont péché, ils ont préféré la parole de Satan, et regardez ce que Dieu fait dans la foulée. Genèse 3, verset 22. L'Éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et regardez ce qu'il fait maintenant. Et heureusement qu'il a fait ça. Imaginez-vous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Imaginez-vous, si Dieu avait dit, bon, ça me fatigue, j'abandonne, s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, nous aurions été voués à vivre dans cette condition éternellement sur la terre. Est-ce que ça vous intéresse? Éternellement, comme on vit aujourd'hui. Ah, mais moi, je peux vous dire que ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que quand on va passer devant Dieu, toute bouche sera fermée. Toute bouche. Parce que tout ce que Dieu a fait est intelligent. Tout ce que Dieu a fait est plein de sagesse. Quand je pense parfois que les païens, c'est de bonne guerre que les païens disent « Ouais, Dieu si, et je ne comprends pas Dieu, et pourquoi pas si, pourquoi pas là ?» Écoutez-moi, tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas parfait. Et quand il les a empêchés de manger de l'arbre de vie, que son nom soit béni. Et il a fait un plan. Quel plan Dieu n'a-t-il pas été obligé de faire pour pouvoir nous donner la vie éternelle différemment, dans les cieux? C'est pour ça, mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Heureusement que Dieu a enlevé cet arbre de vie dans le ciel, croyez-moi. C'est pour ça que la mort, c'est une bénédiction qui nous enclenche dans l'éternité et qui nous permettra de vivre heureux dans un corps spirituel, sans souffrance, sans rien. Dimitri, dans le ciel, vous ne le reconnaîtrez pas. Voilà, parce qu'il sera merveilleux. Et c'est vrai que tous les infirmes, eh bien, ils seront ressuscités, glorieux. Et ce qu'on a lu tout à l'heure, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je peux nous poser la question? Est-ce que nous cherchons les choses d'en haut? Est-ce que vous aimez lire dans la Bible qu'elle sera un petit peu... Vous savez, c'est comme un plan quand on va acheter une maison. On cherche, on regarde, tiens, celle-là, elle me plaît. On peut quand même si la gloire n'a pas été manifestée à ce niveau-là, il est certain qu'on peut quand même lire dans la Bible tout ce que Dieu nous a préparé. Que faisons-nous de cette parole? Cherchez d'abord le royaume. Efforcez-vous, on l'a lu tout à l'heure dans Pierre. Et je termine parce que l'heure approche de l'Assemblée Générale de la CAFEJ. Mais Dieu est en train de préparer les noces de l'agneau. Nous serons tous revêtus de vêtements blancs. Les noces de l'agneau. Vous savez que le ministère de Jésus a commencé à des noces. Et ça, c'est des cycles. C'est souvent dans la Bible. Ça a commencé aux noces de Cana et le royaume s'achèvera, enfin, recommencera aux noces de la nuit. On peut lire quand même ce texte, Apocalypse 19. Je le lis pour ceux qui ne lisent jamais la Bible. Combien vous vous privez de cette bénédiction? On me le dit souvent, moi je ne lis pas la Bible, je ne la lis plus. Combien vous vous privez de mets succulents et gras? Apocalypse 19, alors ça se passe pendant que sur la terre, il y aura la colère de Dieu. Si vous n'êtes pas enlevé, c'est triste à dire, mais je sais que ça se passera, si les chrétiens qui ne seront pas enlevés, alors que la colère de Dieu sera sur la terre, ils sauront dans leur esprit que dans les cieux, il y a une grande, grande fête. C'est les noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, c'est l'Église. On se prépare, il y a une préparation. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Oui, ils sont heureux, parce que ceux qui ne seront pas, ils seront vraiment malheureux. Croyez-moi, dans les tourments déjà, dans l'anticipation de la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, quel programme! Jésus est remonté au ciel, il nous a préparé une place, nous serons toujours avec le Seigneur. Et je conclue avec ce verset d'1 Pierre 1,17. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? La crainte, l'Église du Seigneur, elle doit marcher dans la crainte, c'est-à-dire le respect. On en reparlera. Vous savez, ça va faire 12 ans que je suis parmi vous. J'ai vraiment dans mon cœur certains projets qui, je le crois, viennent de Dieu pour l'Assemblée. Vraiment, c'est très, très sérieux parce que moi, je veux prendre conscience de ce que je vous ai prêché. Vous savez, le jour où le Seigneur m'a montré que je rendrai compte pour toutes mes prédications, c'est bizarre comment j'ai changé ma façon de prêcher. Et je peux vous dire que ce qu'il faut, c'est que nous travaillions à notre salut, au salut des autres, dans la joie, en faisant des efforts, en veillant à ne pas nous souiller, parce qu'il n'entrera rien de souillé dans son royaume. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Je le répète, tout ce qu'il fait est intelligent. Vous êtes d'accord? Tout ce qu'il fait. Arrêtez de faire le jeu du diable en posant des questions. Oui, si, Dieu, si. Dieu ne se trompe jamais. Et quand il fait quelque chose, il le fait bien. Croyez-moi, la nouvelle Jérusalem, moi je languis de voir mon appart, franchement. Vous aussi? Ouais. On prie le Seigneur et on laisse la place à M. Sinarinzi. Ouais, c'est ça. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Non seulement tu nous as accordé cette place au prix de ton sang. Seigneur, merci, parce que si nous irons avec toi dans la gloire, à cause de cette œuvre au calvaire, merci d'avoir empêché Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie. Merci d'ailleurs pour toutes les fois où tu es intervenu pour sanctionner. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole dans notre langue. Merci Seigneur. Merci pour les hommes qui ont travaillé à la traduction en français. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous te prions de nous accorder cette intelligence pendant le court séjour sur la terre, de travailler avec crainte et tremblement, de travailler pour notre salut et pour le salut des autres. Seigneur, nous te prions pour que vraiment chacun d'entre nous, tous ceux qui écouteront cet enregistrement, soient touchés, Seigneur, et puissent véritablement être un instrument de bénédiction pour le salut des pécheurs. Seigneur, tu bénis cette ville de Toulouse. Tu bénis, c'est vrai, ce permis qui est à la préfecture. Tu bénis, Seigneur, cette distribution de l'évangile de Marc. Que les Toulousains soient mis en rendez-vous avec toi par cet évangile. Seigneur, merci pour l'assemblée également de la CAFEJ. Donne-nous ta grâce pour bien gérer les finances de l'Église, Seigneur. Donne-nous d'entrer dans tes projets. Donne à chacun d'entre nous de faire les œuvres auxquelles tu nous as appelés. Seigneur, merci pour ta parole. Tu ne nous as pas manifesté ta gloire, mais Seigneur, nous savons que bientôt, nous la découvrirons. Merci, garde-nous jusqu'à la fin, garde-nous du mal. Merci Jésus pour ta parole. Amen.